l'eau et la roche comme deux entités irréconciliables. J'ai longtemps cru les falaises d'Étretat, donnant sur la Manche, inamovibles, comme je croyais la maison familiale indestructible. Avec le temps, s'est érodée cette conviction. Je voyais les efforts pour reconstruire, préserver du délitement, l'âme de notre arbre généalogique. Et puis, les falaises s'érodent aussi, elles s'écroulent même. Plus que jamais, les côtes sont mitées par la mer. On dit d'ailleurs le front de mer, comme si c'était un front de guerre.
Bonjour, nous sommes à la cuisine pour la quatrième session de l'Onde Dilettante. Nous sommes aujourd'hui donc accompagnés de trois personnes pour réaliser cette dégustation de ce soir. Une dégustation qui sera dédiée, comme vous l'avez compris, à l'eau et à la roche, donc à l'eau minérale. Comme vous l'entendiez, je pensais qu'il y avait les roches d'un côté et l'eau de l'autre, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu plus compliqué que cela. Donc pour en parler ce soir, j'accueille Jérôme Gaillardet, Julien Chopin et Anne-Sophie Milon. Bonsoir.
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 Je vous propose donc trois eaux minérales ce soir. Une première eau minérale qui est ici présente et qui est une eau des Pyrénées. Elle s'appelle l'eau neuve. Elle est captée à 1332 mètres. Enfin, je reviendrai peut-être plus en détail juste après. Donc l'eau neuve des Pyrénées, l'eau de Mont-Blanc, du toit de l'Europe, et une eau alors que j'ai choisie peut-être parce que je dois être un petit peu snob, c'est une eau des Fidji. Pas des eaux qu'on rencontre tout le temps, mais qu'on trouve dans les supermarchés. Donc une eau artésienne des Fidji. Alors pourquoi bien sûr les eaux minérales? Parce que j'ai imaginé dans mon esprit que l'eau traversait les roches. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'elle s'imprégnait des roches, elle les érodait et elle les emmenait dans l'eau. Enfin, elle les emmenait dans l'eau. Elle emmenait, donc l'eau emmenait ses nutriments pris des roches et que nous, ça nous permettait aussi de vivre. Alors je propose de démarrer tout de suite. L'eau avec l'eau neuve, je vais vous la servir et puis ensuite je vous dis ce qu'il en est.
Je commence par dénoncer directement mon voisin qui a dit tout doucement, c'est de la flotte quoi.
Mais on nous aurait trompé. Moi qui pensais que c'était de l'eau minérale. Alors celle-ci a été captée à 1332 mètres en Haute-Ariège dans la vallée de Pédour du côté de Mérins. C'est une eau de fonte de neige qui culmine normalement à 2300 mètres et qui a été, d'après la notice, filtrée pendant 5 ans dans la roche. Le service marketing de l'eau neuve nous informe également que seulement 15% de la source est captée et qu'elle contient du bicarbonate à hauteur de 20 mg par litre, de chlorure, de sulfate, de calcium, potassium, silicate et magnésium. Peut-être, Jérôme, qu'en dis-tu de cette eau qui est de la flotte? Est-ce que c'est vraiment de la flotte d'abord, une eau qui descend de la montagne?
C'est de la flotte parce que la molécule majoritaire, oui, c'est H2O. Maintenant, si on s'amusait à l'évaporer, on trouverait un résidu sec qu'on serait capable de peser sur une balance du moment qu'on évapore un litre. Donc, en fait, ce n'est pas que de la flotte.
Ah, effectivement, l'extrait sec à 180 degrés est de 69 mg par litre.
Ouais, pas répété. Combien?
69.
Ah oui, c'est pas beaucoup. L'Aveyron en a 300. Donc, c'est trois fois moins que l'Aveyron. Donc, je vais déconstruire ce que tu as dit. Donc, c'est pas l'eau n'est pas minérale parce qu'elle a interagi avec la roche. Parce que la roche, par définition, c'est ce qui est intact, inaltéré, pur. Voilà. Et donc, l'eau a interagi Non pas, elle ne s'est pas déplacée dans la roche, c'est pas vrai. Elle se déplace dans les interstices de ce qu'était la roche ou dans les fractures de ce qu'était la roche, mais en la traversant, elle la transforme. D'où la notion de zone critique. Donc en fait, l'eau est minéralisée parce qu'elle traverse une pellicule de la surface de la Terre qui est la zone critique. Donc la question est, pourquoi il y a une zone critique ? Donc il y a une zone critique parce que cette eau qui, en traversant la zone critique, c'est-à-dire la pellicule superficielle de la planète rocheuse, s'est chargée de gaz carbonique et que ça provoque une réaction chimique. Donc là où tu as raison, c'est qu'effectivement il y a un choc, il y a un affrontement entre, c'est pas l'eau, c'est l'acidité de l'eau et, en gros, pour parler comme un chimiste, la basicité des roches. Voilà. Mais c'est une réaction chimique au sens de Lavoisier. Un acide plus une base donne des sels plus de l'eau. On en revient toujours au grand classique. 1783, je crois bien. Voilà. Donc là, j'ai fini. À peu près tout dit. Mais je voulais juste ajouter une chose pour orienter la discussion. C'est que si cette eau est chargée en gaz carbonique, c'est qu'il y a un mécanisme qui l'a enrichi en gaz carbonique, parce que dans l'atmosphère, il y a très peu de gaz carbonique.
Et peut-être... Pourtant, on n'arrête pas de nous expliquer, il y a trop de gaz carbonique.
Très bien, vous êtes un bon public. 350, allez, on va être gentil, 410-6 grammes par gramme. Il a fallu attendre les années 1950 pour qu'on soit capable de les mesurer. Honneur à M. Keeling qui a installé cet instrument à Mauna Loa contre la volonté de ses financeurs qui disaient « Mais qu'est-ce que tu nous ennuies avec ce machin qui va mesurer un gaz qui est insignifiant dans l'atmosphère ?» Donc il y a forcément un moment, un mécanisme d'enrichissement du gaz carbonique dans la zone critique. Ces eaux dites minérales sont minéralisées par l'intervention des vivants. Parce que c'est la décomposition des vivants dans la zone critique qui produit des concentrations en gaz carbonique, cette acidité suffisante pour faire la réaction, dont le résultat est la minéralité de l'eau. Donc les eaux ne sont pas minérales, elles sont le résultat de l'action des vivants.
La deuxième eau minérale que je vous propose, c'est cette eau du massif du Mont Blanc. Donc l'eau de Mont-Blanc, elle est captée à 1518 mètres. C'est une eau de fonte des neiges également, issue du massif du Mont-Blanc, qui, comme on le sait tous, culmine à 4810 mètres ou 4809 mètres, j'ai vu les deux informations. Elle est filtrée naturellement après un parcours de plusieurs années dans les roches vierges du prestigieux massif de granit et de gneiss. C'est le toit de l'Europe. Et alors, c'était une habile transition pour moi pour parler avec Julien. Julien, il me semble que tu as travaillé en tant qu'architecte sur un projet dans la région d'ailleurs, dans le Lot. Tu m'expliquais, mais peut-être peux-tu nous l'expliquer directement, que vous avez réalisé avec l'agence d'architecture dans laquelle tu travaillais, un toit en pierre sèche. Et il semblerait que vous ayez des petites problématiques d'eau sur ce toit. Des choses qu'on connaît quand même assez régulièrement tous dans nos maisons. Alors peut-être est-ce un moyen de nous parler des liens entre l'architecture et l'eau ?
Effectivement, on a construit un bâtiment, un micro, une œuvre d'art refuge, selon l'intitulé que lui a donné, que nous a proposé comme commande derrière le Hublot et le parc naturel d'Écosse du Quercy, faire une œuvre d'art refuge sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Tout ça en pierre sèche. Donc, pierre sèche veut dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, veut dire tout simplement des pierres qui sont assemblées et on arrive à construire un mur sans rajouter de ciment, de mortier, donc sans rajouter d'eau. D'où cette technique qu'on appelle sèche, qui peut s'appliquer aussi aux structures, quand on dit des structures bois ou des structures métal en opposition aux structures béton, c'est ce qu'on appelle la filière sèche du bâtiment. Donc là, on a construit en pierre sèche. On a construit sur le principe d'une caselle où on a deux voûtes. Donc c'est de la pierre à bâtir, de la pierre calcaire, extraite d'une micro-carrière du sol directement. Donc on extrait des blocs de pierre. Il y a deux types, des blocs qui ont des formes variées, qui permettent de bâtir la première voûte, qu'on appelle l'intrados. Et ensuite, dessus, on récupère des loses, donc qui sont ces pierres plates, qui sont comme ces pierres, comme des feuilles, et ensuite qu'on assemble patiemment sur la première voûte, et qui forment la deuxième voûte en pierre. Et l'ensemble, normalement, est étanche. Et dans notre cas, on a découvert une fuite. Donc voilà, c'est un peu le paradoxe d'avoir construit en pierre sèche un bâtiment qui, pour l'instant, a encore une petite fuite dans son toit.
C'est des problématiques normalement qu'on n'a pas donc dans l'architecture. Lorsqu'on réalise un toit, il ne se met pas à fuir directement.
J'entends dans l'assistance... Franck Guéry aurait connu ces problèmes. Il y a de nombreux architectes qui sont confrontés à ça. Je voudrais citer trois architectes qui s'appellent Josic, Candilis et Wood, qui ont construit le Mirail à Toulouse, et notamment l'école d'architecture dans laquelle j'ai appris l'architecture. Et je me rappelle que la première fois que je suis rentré dans cette école, en face de moi, j'ai trouvé une bassine, une poubelle noire qui collectait d'un goutte à goutte du toit qui fuyait. Donc finalement, je me dis qu'après 20 ans d'exercice, d'avoir moi aussi été confronté à la fuite, je pense que c'est pas si grave que ça.
Alors est-ce qu'il y a un lien justement entre ces toits de nos habitations qui fuient et les montagnes? Est-ce que c'est une forme de fuite finalement? L'eau qui traverse la montagne et qu'on récupère, et on appelle ça de l'eau de source,
oui,
mais c'est une forme de fuite.
C'est exactement la même chose, parce qu'on a tous eu des fuites dans notre toit et on a tous pesté parce qu'on ne sait pas par où passe l'eau. Et le problème de l'hydrologie ou de l'hydrogéologie, qui sont les deux sciences qui étudient la manière dont l'eau s'infiltre dans le sol, c'est de trouver par où passe l'eau. Quels sont les chemins de l'eau, je préfère dire les courants d'eau, comme on parle des courants d'air, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, quand il pleut, l'eau ne s'infiltre pas gentiment de manière homogène. Elle emprunte des chemins préférentiels, qui sont des fractures, qui sont des zones plus ou moins dissoutes, poreuses. Dans les massifs calcaires, c'est encore plus évident. Elle emprunte des canaux karstiques, des grottes, des gouffres, etc. Et c'est un problème incroyable que d'essayer de savoir par où passe l'eau dans les roches. Donc exactement la même problématique.
Et il y a même un métier qui s'appelle faire de la reconnaissance de fuite, et où il y a des spécialistes qui ont à la fois des méthodes et des instruments pour arriver à tracer, en tout cas dans un bâtiment, l'origine et du coup le chemin de la fuite.
Anne-Sophie, peut-être, quand je suis arrivé à la cuisine lundi dernier et que je t'ai demandé si tu avais des idées d'un endroit où on pourrait capter de l'eau de l'Aveyron, tu m'as donné une réponse qui m'a un peu surpris. Peut-être pourrais-tu nous en parler, si tu t'en souviens.
Oui, bah, ça rebondit avec ce qu'on vient de dire. En fait, ici, dans le centre d'art et de design de la cuisine, il y a eu au mois de février en fait une grosse crue, et donc la rivière de l'Aveyron qui longe ce centre d'art est sortie de son lit. Et en fait, on a pu se rendre compte avec des fortes pluies qu'il y avait eu une sorte d'infiltration, pour le coup un dégât des eaux dans une des salles qui s'appelle l'atelier et qui est couverte par un plafond de béton, et l'apparition de petites stalactites et fistuleuses qui ont donné naissance à quelque sorte des nouveaux minéraux. Et effectivement, avec le travail que je mène avec le collectif Elsa Véron, on a commencé à réfléchir en parallèle à la rivière de l'Aveyron de manière classique, comment elle réagissait en miroir et en tension avec ces stalactites et fistuleuses qui sont apparues. On a par exemple essayé de se demander ce dont on va me parler, c'est-à-dire à quel endroit il y a des parallèles entre la montagne, l'infiltration dans les systèmes karstiques et des dégâts des eaux. Et comment on pouvait peut-être potentiellement déplacer ce vocabulaire-là. Alors nous, on a plutôt exploré ça sous le prisme de la spéléologie. On est allé se renseigner auprès de spéléologues comment ils nommaient les choses. Et on a aussi découvert les recherches qui sont menées actuellement par des minéralogistes états-uniens qui se battent pour essayer de reconnaître ces nouvelles formes de minéralogie qui sont issues ici du béton et comment l'Association internationale de minéralogie refuse de les reconnaître vu qu'ils ne sont pas créés par la nature, mais sont fabriqués par l'homme. Donc voilà. Et donc quand tu es venu et que tu m'as demandé où est-ce que tu pouvais trouver des sons de la rivière de l'Aveyron, je t'ai suggéré effectivement de descendre dans l'atelier, puisqu'en fait on a été assez aussi surpris de voir que ça continuait de goûter et ça fabriquait une sorte de flaque au sol et qu'on n'a toujours pas trouvé d'où venait la source de l'eau, puisqu'on est, comme vous disiez si bien, on est allé voir les plans d'architecture, on est allé sur le toit et il n'y a pas de trace d'eau.
Alors tu dis la source de l'eau, mais je me demande, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est une forme d'eau de source, même si le débit est relativement faible, enfin même extrêmement faible.
Tu voudrais nous faire boire de l'eau cimentée ?
Non, mais je me dis, ça pourrait être peut-être la première eau minérale issue d'un centre d'art. Tu voulais dire quelque chose ? Je pensais que tu voulais dire...
Je pense que, oui, tu as raison, Anne-Sophie, on pourrait très bien imaginer que la réaction de cette eau dans le ciment, qui est exactement la réaction de l'eau dans le massif du Mont-Blanc, produise une eau dite minérale. Et sa composition chimique ne serait pas très différente de la composition chimique des eaux du massif du Mont-Blanc. Parce que le ciment, c'est un silicate, et le Mont-Blanc, c'est aussi un silicate.
C'est peut-être le moment de déguster cette troisième eau qui n'est pas tout à fait locale, puisqu'elle vient de l'autre bout de la planète. Je vais vous la servir. Donc c'est une eau artésienne. Alors peut-être, pendant que je la sers, peut-être Jérôme...
Donc lorsque le niveau de recharge d'une eau se fait à une altitude donnée, je ne sais pas, on va l'appeler Z, et que cette eau s'infiltre dans la croûte terrestre et qu'elle ressort, elle ressort forcément sous la forme d'une source à un niveau qui est plus bas que Z, et si on la laisse jaillir, elle va avoir tendance à monter jusqu'au niveau de Z. Je voudrais dire quelque chose qui est quand même... l'essentiel qu'on n'a pas dit. Ah oui. On boit de l'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau sur Mars? Pourquoi il n'y a pas d'eau sur la Lune? Pourquoi il y a de l'eau sur Vénus? C'est pas clair. Et pourquoi on est là autour de cette table et qu'on discute des pierres sèches? D'où vient cette eau? C'est encore une des grandes controverses scientifiques qui a un épisode quasi chaque année. Le dernier étant un papier à Science il y a une petite année de collègues de Nancy qui ont remis le curseur du côté de l'eau que nous buvons est une eau qui vient essentiellement de l'intérieur de la Terre, car le curseur était parti de l'autre côté. L'eau que nous buvons, l'eau de nos océans, est essentiellement une eau extraterrestre qui a été apportée à la Terre à un stade tardif de sa construction, de son accrétion météoritique, par ce qu'on appelle le grand bombardement tardif, j'adore cette expression. Qui aurait apporté, alors il y a beaucoup d'hypothèses, soit des météorites d'un type particulier, riches en eau et en carbone, d'où l'idée que c'est peut-être comme ça que la vie est également apparue, ou alors des comètes. Et l'exploration de la comète Chury il y a quelques années a été très décevante de ce point de vue-là, parce que sa composition isotopique, c'est-à-dire sa carte d'identité de l'eau, a montré que ce n'était pas possible que ce soit des comètes de type Chury. Donc l'hypothèse cométaire a du plomb dans l'aile. L'hypothèse météoritique est toujours valable, mais l'année dernière, l'idée que c'est la Terre elle-même qui a puisé son eau de l'intérieur de son manteau a refait surface. C'est toujours un grand débat que je trouve vraiment passionnant, parce que c'est quoi l'originalité de la planète Terre dans le système solaire? C'est la coexistence de l'eau et du gaz carbonique, les deux étant des frères ennemis, quoi, vraiment. Et c'est pour ça qu'on est là.
Merci Jérôme, donc Jérôme Gaillardet, merci Julien Chopin et merci Anne-Sophie Milon. Merci à tous.
Le dialogue des eaux que vous venez d'écouter a
Bonne
été
soirée.
Conçu et animé par Ludovic Roif. L'enregistrement a eu lieu pendant le festival Le cours de l'eau, la cour et l'eau à la cuisine, centre d'art et de design à Nègrepelisse, en partenariat avec Les Nouveaux Terriens, l'observatoire des imaginaires ruraux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesnouveauxterriens.fr.